Nous allons reprendre l'après-midi. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on reviendra demain sur les questions de réhabilitation en fonction des disponibilités de nos différentes intervenantes. Et bien qu'on ait fait le choix, pour des raisons de format, de fortement axer donc nos journées sur des thématiques qui tournaient autour de la réhabilitation, et plus généralement des parcours, paraissait important, et d'ailleurs vous en avez eu des échos ce matin quand on a parlé de diagnostic, qu'on fasse une place à la question des neurosciences, à la fois en termes de développement et d'actualité des neurosciences, et d'apport des neurosciences à notre discipline, y compris dans nos établissements monodisciplinaires, puisqu'on sait qu'on a souvent cette difficulté de deux mondes qui cohabitent, qui parfois s'ignorent également. Alors je voulais remercier donc le professeur Bougerolles, chef du pôle des neurosciences au CHU de Grenoble. Je me suis adressé à mon voisin sur un sujet des neurosciences qui fait spécialité chez eux, donc c'était d'autant plus facile. La semaine et la localisation nous ont contraints à adapter un tout petit peu le programme. Donc en fait, Thierry Bougerolles interviendra à deux titres. D'abord sur la question de l'apport et du panorama des neurosciences, puis dans un second temps sur la recherche, puisqu'on sait que parmi nos fils conducteurs, on a également la recherche médicale et en soins infirmiers. Et puis donc, y compris pour se décentrer un peu, voir d'autres choses, s'aiguiser l'esprit, paraissait important de venir sur des choses qui relèvent aussi du champ des innovations, et notamment, donc, à titre d'illustration, les apports de la robotisation en stimulation magnétique transcrânienne. Donc le docteur Olivier David nous fait l'honneur et l'amitié d'être présent aujourd'hui. Et puis dans la reformulation du programme, donc, on reviendra sur cette question dont on reparle plus depuis quelques mois, y compris à travers l'actualité, de la sismothérapie, où le docteur Didier Roy, donc, qui s'occupe de cette activité au CHS de la Chartreuse, viendra lui aussi nous décrire l'activité de cette technique. Donc, messieurs, je vous propose de monter à la tribune.
Tout d'abord, je souhaitais remercier votre association, et notamment M. Mariotti, donc, qui en est, mes informations sont correctes, le président, de l'invitation à venir parler devant vous cet après-midi. Parler d'une expérience qui est une expérience grenobloise. Alors c'est un petit peu de satisfaction locale dont je vais faire état, mais cette expérience illustre aussi un des développements plus récents de la structuration de la recherche, et notamment ici la recherche translationnelle, à partir d'un appel à projet qui a été lancé au plan régional, mais comme je vais l'expliquer ici, en fait, s'inscrit dans un mouvement initié au plan national et plus particulièrement par l'assistance publique des hôpitaux de Paris pour la mise en place de structures hospitalo-universitaires innovantes qui contribuent à redessiner un petit peu le paysage à la fois hospitalier et universitaire autour des activités de recherche. Alors cette intervention, comme M. Mariotti a fait allusion, aurait dû être faite initialement par le professeur Philippe Kahn, qui est un de nos collègues à Grenoble, qui est professeur de neurologie et spécialisé en épileptologie, mais qui a eu des difficultés à se libérer pour venir présenter cette communication. Et je le fais donc à sa place, mais également en tant que directeur adjoint de cette fédération, Philippe Kahn en étant le directeur. Alors, ces structures fédératives hospitalo-universitaires s'inscrivent dans un contexte que vous connaissez, qui concerne l'évolution dont on discute depuis longtemps des CHU, qui sont en France quand même assez nombreux pour la taille et la géographie du pays, puisqu'il y a 32 ou 33 CHU, je ne me rappelle plus exactement, dont la taille est très inégale suivant les cas et dont les missions sont extrêmement larges, puisque c'est à la fois des missions de proximité en tant qu'hôpitaux généraux et des missions de recours et d'expertise en tant que centre universitaire. Et l'environnement de la recherche étant de plus en plus concurrentiel, notamment au plan international, il y a de nombreuses réflexions sur l'évolution à proposer à ces CHU pour les rendre compétitifs dans un environnement effectivement qui l'est de plus en plus. Par ailleurs, bon, cet environnement il est marqué aussi par l'évolution des connaissances et les nombreux défis qui se posent, qui font que les soins sont de plus en plus pointus, de plus en plus chers aussi, et que l'organisation des établissements s'en ressent. Donc tout est parti, en fait, pour ces structures hospitalo-universitaires nouvelle manière, du rapport Maresco de 2010, commission donc, qui avait proposé la création d'instituts hospitalo-universitaires, des IHU, qui ont été, l'appel à projet qui a suivi la publication du rapport, a permis la labellisation de 6 instituts hospitalo-universitaires, qui sont des établissements grassement dotés sur le plan financier et qui ont un rayonnement qui, d'ores et déjà, est assez important. Donc, il y en a 3 à Paris. Dans le domaine qui nous concerne, c'est-à-dire celui des neurosciences, c'est l'Institut du cerveau et de la moelle, la Salpêtrière, qui est cette IHU. Et puis, il y en a 3 à province, dont un à Strasbourg, qui est d'ailleurs présidé par le professeur Maresco, qui avait été à l'origine de la proposition. Donc la labellisation de ces IHU, qui a été extrêmement compétitive, avait suscité un certain nombre de frustrations, on va dire, de la part des équipes candidates qui n'avaient pas été retenues ou qui n'avaient pas la taille suffisante pour répondre à l'appel d'offres. Et la PHP avait décidé rapidement, dans la foulée, de publier, alors localement, pour les équipes parisiennes, un appel à projet pour la création de départements hospitalo-universitaires, donc des DHU, qui a été donc publié en 2011, avec des critères de définition plus légers que les IHU, mais avec la même philosophie, c'est-à-dire de vraiment soutenir la recherche translationnelle à un haut niveau d'excellence pour permettre à ces équipes d'améliorer leur compétitivité. Donc ce premier appel à projet parisien, en juillet 2011, a été suivi de la labellisation au début de l'année suivante, donc janvier 2012, de 8 départements hospitalo-universitaires parisiens, sélectionnés par un jury international dont la composition figure sur la diapositive. Ça a peu d'intérêt, mais effectivement, c'est quand même le souhait d'évaluer d'une façon la plus objective possible la qualité des projets à l'aune de la compétition internationale, et la composition du jury à ce titre-là est quand même importante. Donc 8 DHU dans la première vague, aucun dans le champ des neurosciences, et il faut attendre la deuxième vague, donc 2 ans plus tard, la PHP avait pris goût en quelque sorte à ce type de structuration, ce qui montre peut-être, enfin, si on lit un petit peu entre les lignes, l'intérêt structurant de ces nouveaux labels pour les établissements, si on considère que la PHP est un établissement en lui-même de taille tout à fait considérable. Mais ils se sont appuyés assez largement quand même sur cette structuration. Donc 2012, nouvel appel à projet, à nouveau 8 départements, toujours parisiens, retenus, dont un cette fois-ci a une thématique psychiatrique, puisque c'est le département hospitalo-universitaire qui est piloté par une de nos collègues, Marion Le Boyer, qui est professeure de psychiatrie à Créteil, très engagée dans la structuration de la recherche au plan national et une personne très, très médiatique. Mais les 7 autres étaient sur des thématiques différentes. Alors ça reste très parisien. Et en province, évidemment, il y a eu un certain nombre d'interrogations. Et les premiers à avoir dégainé, en quelque sorte, c'est Nantes. Alors Jean-Marc Ayrault était Premier ministre à l'époque, mais je ne sais pas s'il y a un lien. Et Nantes a sorti, à peu près en même temps que la deuxième vague d'appels à projets DHU parisiens, un appel à projet local pour la labellisation sur les mêmes principes que l'appel à projet parisien de DHU. Et deux ont été labellisés il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Ces appels à projets ont permis de définir de façon assez précise ce que doivent être ces structures fédératives. Et donc, voici les objectifs très généraux où on voit bien quelle est la philosophie de l'action derrière. D'une part, c'est une ambition de recherche, de formation et de soins, ça va de soi. Mais c'est surtout des structures qui sont envisagées comme capables de créer une véritable dynamique de sites sur le plan hospitalo-universitaire, sur des thématiques de sites considérées comme prioritaires. En soi, c'est déjà une donnée, je pense, assez intéressante sur l'évolution prévisible des établissements, puisque c'est d'une certaine façon dire que les CHU ne peuvent pas pousser à un haut niveau d'excellence toutes les spécialités, toutes les disciplines ou toutes les thématiques de recherche, et qu'il y a des choix stratégiques à faire qui vont dépendre de l'environnement et d'un certain nombre de choses, et les DHU sont là finalement pour les concrétiser. Donc c'est dans un périmètre hospitalo-universitaire donné, l'association autour d'une thématique de recherche précise, de plusieurs structures cliniques, médico-techniques, bon, des services, des pôles, etc. Éventuellement, plusieurs CHU peuvent s'associer s'il y a une justification au regard de la thématique et de la structuration locale ou régionale. Et ces structures donc hospitalières, hospitalo-universitaires, qui sont le socle l'organisation, les DHU ont une base hospitalière, vont devoir associer également là où les universités qui sont concernées et des organismes de recherche qui sont membres d'Avisan, l'Alliance pour la vie et la santé, qui regroupe, comme vous le savez, les grandes structures de recherche, notamment INSERM et CNRS. Ce DHU doit avoir un niveau de compétitivité suffisant, donc il faut qu'il y ait une masse critique de chercheurs, d'enseignants, de personnel hospitalier sur le site. Et l'objectif est clairement affiché d'atteindre un niveau d'excellence au niveau international dans la thématique qui a été choisie. Et le socle hospitalier de la structure est à nouveau réaffirmé par le fait que ce sont des structures qui doivent être pilotées par des cliniciens. Ce n'est pas des structures de recherche, c'est vraiment des structures transversales ou translationnelles, mais à point de départ hospitalier. Et les projets sont évalués par des experts extérieurs, ce que j'ai déjà évoqué. Alors, le Comité national de coordination de la recherche a établi un certain nombre de recommandations pour ces appels d'offres et la sélection des projets, donc le jury externe. La labellisation qui est obtenue est donnée pour 5 ans, éventuellement renouvelable, et ces DHU doivent, par nature, en quelque sorte, être en nombre limité sur une entité hospitalière. Il n'est pas question de labelliser de cette façon l'ensemble des services. Alors, ce sont des entités juridiques autonomes, et dont l'existence repose en fait sur une convention de partenariat entre les différents organismes donc, qui sont associés, l'hôpital d'une part, l'université, les organismes de recherche notamment, et qui peut aussi intégrer des collectivités locales ou des organismes publics ou privés. Donc la gouvernance et le pilotage est assuré par un clinicien. Et il y a un conseil scientifique et il y a une forte recommandation pour qu'il y ait un conseil de surveillance avec des experts indépendants extérieurs. Alors une particularité, une grosse différence quand même par rapport à l'appel d'offres pour les instituts hospitalo-universitaires, les IHU, c'est que ces appels d'offres pour des départements hospitalo-universitaires n'est pas associé à l'attribution de moyens, c'est uniquement un label. Et les financements doivent être recherchés au travers des activités de recherche avec la possibilité de financement par les structures partenaires. Mais c'est au bon vouloir, finalement, des structures partenaires. À titre d'exemple, la Fédération hospitalo-universitaire du CHU de Grenoble, dont je vous parlerai dans un instant, a obtenu un financement pérenne de notre CHU qui nous donne 100 kilos euros par an. Bon, ce qui permet quand même de recruter au moins un chef de projet et du temps administratif. Les structures donc, sont labellisées pour 5 ans, évaluées par l'AERES, et avec une évaluation comparable à celle des unités de recherche, donc, qui est déterminante pour le renouvellement du label. Alors, les différents appels d'offres dont j'ai illustré le point de départ à l'origine parisien ont été lancés sur le plan régional, non sans des discussions importantes. Et en Rhône-Alpes Auvergne, il a fallu quand même attendre pas mal de temps, et il y a eu pas mal d'incertitudes sur le fait que cet appel à projet serait effectivement publié. Il l'a été, donc après un consensus obtenu entre les quatre CHU de la région, enfin de l'interrégion à l'époque, Rhône-Alpes Auvergne, maintenant c'est une seule et même région, qui sont regroupées dans un GCS qui s'appelle OURA, pour Hôpitaux Universitaires Rhône-Alpes Auvergne, avec donc le soutien logistique et technique des DRCI locales et des comités de pilotage ad hoc qui se sont mis en place. Donc cet appel à projet était un appel à projet régional ou interrégional au moment où il a été publié, en 2013, avec le fait que les départements suite à l'œil universitaire pouvaient être multisites du fait de la taille modeste de certains des CHU de la région, à part Lyon, qui est une énorme structure. Les trois autres CHU sont de taille quand même assez modeste. Et bon, conformément au cahier des charges, la labellisation a été faite par les représentants des institutions, mais c'était une labellisation attribuée localement. Une fois les résultats de l'audition, des auditions par le jury international étaient obtenus. L'appel à projet a été publié donc en avril 2013. Les candidatures ont été auditionnées quelques mois plus tard avec un jury effectivement présidé par des scientifiques internationaux, donc un Espagnol et un Allemand. 13 projets avaient été présentés. Donc vous avez ici la liste, je vous laisse prendre connaissance des différentes thématiques qui avaient été retenues. 4 projets ont été retenus au final, 3 projets lyonnais, c'est la taille est quand même corrélée au nombre de succès, donc qui sont encadrés en bleu, et un projet, d'ailleurs, je suis désolé, il y a une erreur dans ma diapositive, puisqu'il y en a un trop des Lyonnais. Bon, peu importe, et un projet donc grenoblois, qui est celui que je vais vous présenter maintenant, qui associe donc plusieurs disciplines universitaires au niveau de l'établissement, donc la psychiatrie que je représente, le professeur Stéphane Chabardès, qui est neurochirurgien, et Philippe Kahn, donc qui aurait dû faire cette présentation, qui est neurologue. Alors, ce projet qui a été labellisé, son acronyme, enfin son petit nom, c'est Neuropsy9, pour neurostimulation et innovation thérapeutique dans les pathologies neuropsychiatriques résistantes. Donc, il est, conformément au cahier des charges, piloté par un clinicien, donc, en l'occurrence, le neurologue de l'équipe. Alors, l'arrière-plan de ce projet tient au constat de l'importance des pathologies neuropsychiatriques. Ce n'est pas à une assistance telle que la vôtre que je le rappellerai, et le coût pour la santé, qui est lié en particulier à l'existence parmi ces pathologies neurologiques et psychiatriques de nombreuses formes résistantes au traitement usuel qui vont entraîner des coûts de santé souvent très considérables. Le projet s'est focalisé sur 4 pathologies très spécifiques, 2 pathologies neurologiques, d'une part les troubles du mouvement, essentiellement la maladie de Parkinson, mais également les dystonies, l'épilepsie pharmaco-résistante, et 2 pathologies psychiatriques, la dépression résistante, qu'elle soit unipolaire ou bipolaire, et les troubles obsessionnels compulsifs résistants. La philosophie de ce projet est de considérer en fait ces différentes pathologies, ou plutôt ces différents patients, comme finalement ayant en commun une caractéristique, et la résistance au traitement usuel, de pathologies qui sont des pathologies cérébrales, des pathologies de l'encéphale. Et de fait, les données de la science, je ne vais pas détailler ceci, montrent que pour ces quatre pathologies, mais ça pourrait concerner d'autres pathologies également, et d'ailleurs probablement que le périmètre de ce FHU sera élargi au fil du temps, montre en fait des recoupements à la fois symptomatiques et cliniques très, très importants, des dysfonctionnements au niveau des différents réseaux cérébraux qui, pour beaucoup, se recoupent, ou tout au moins qui impliquent les mêmes structures cérébrales dans quelle que soit la pathologie. Et c'est des pathologies qui se prêtent à une approche multidisciplinaire avec des outils diagnostiques communs, qu'ils soient des outils neuropsychologiques, d'imagerie ou autres. Donc on a pris le parti de proposer que ces patients seraient explorés exactement de la même façon, indépendamment de leur diagnostic, tant sur le plan clinique que sur le plan des explorations multimodales, donc des explorations électrophysiologiques détaillées en imagerie, en biologie, en neuropsychologie, etc., etc. Ce qui correspond à une orientation des perspectives de recherche sur le plan des neurosciences et plus particulièrement de la psychiatrie qui a été proposée à la fois par l'ITMO Neurosciences mais aussi aux États-Unis par le NIMH au travers du programme qui s'appelle RDoC, c'est-à-dire l'exploration par domaine, en fait une exploration des pathologies strictement dimensionnelles et non plus catégorielles comme les diagnostics le permettent. Donc c'est le parti qui a été pris pour explorer ces maladies de façon transversale et translationnelle. Donc, l'objectif de ce FHU est de développer, d'une part, une expertise de haut niveau pour l'exploration de ces patients, améliorer la compréhension qu'on a des mécanismes à la fois des pathologies, mais surtout de la résistance aux traitements usuels, de développer des thérapeutiques innovantes, et Grenoble travaille depuis très longtemps sur les techniques de stimulation cérébrale, puisque la stimulation cérébrale profonde en traitement de la maladie de Parkinson a été inventée à Grenoble dans les années 80 par le professeur Alim Louis Benabid et Pierre Pollack, qui est un collègue neurologue. Le dernier objectif, c'est la dissémination de ces connaissances au travers d'actions de formation. Alors le consortium qui a été regroupés pour construire cette fédération comprend d'une part des équipes cliniques, donc 7 équipes principalement, qui sont la psychiatrie, la neurologie dans ses sur-spécialités que sont l'épileptologie et les troubles du mouvement, la neurochirurgie, la neuropsychologie, la neurophysiologie, la neuroradiologie. 3 gros laboratoires de recherche de la place grenobloise, qui sont l'Institut des neurosciences, qui est dans l'enceinte même du CHU de Grenoble, qui est une unité INSERM, et qui a une expertise très pointue en imagerie cérébrale, soit imagerie classique, on va dire, ou imagerie en électrophysiologie aussi, la neurobiologie, et qui développe aussi des modèles animaux. Le LPNC, qui est le laboratoire de psychologie et neurocognition, qui est une unité du CNRS avec une expertise dans le domaine des sciences cognitives, évidemment, et le GIPSALAB, qui est une unité mixte, qui est spécialisée dans le traitement du signal, ces deux derniers se trouvant sur le campus universitaire. On associe également 10 plateformes, c'est ce qui est appelé plateforme dans le cahier des charges des fédérations, qui, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui associe par exemple le CIC du CHU, mais également les services d'addictologie, la rééducation, mais également des structures de recherche comme Clinatech, qui est un laboratoire de recherche du CEA, le synchrotron grenoblois, et puis d'autres structures de recherche, et enfin des fédérations de recherche et qui existent déjà, et notamment dans le domaine des sciences humaines et sciences sociales, et le lien également avec la société civile au travers de la SFR, Société fédérative de recherche, et qui s'appelle Sciences humaines. Son nom m'échappe sur l'instant, mais qui regroupe des équipes en sociologie et en psychologie, notamment en psychologie sociale. L'organisation même de cette fédération repose sur plusieurs équipes, dont vous avez ici les pilotes. Un premier axe, un premier groupe de travail comprend toute l'approche clinique avec les évaluations multimodales détaillées, le choix des options thérapeutiques pour les patients et la construction, ça c'est la clé de voûte du projet de fédération, la construction d'une base de données partagée entre cliniciens et chercheurs. Un deuxième groupe de travail sur la compréhension des mécanismes, donc la recherche plus fondamentale sur l'identification de marqueurs multimodaux, l'exploration des fonctionnements des réseaux corticaux et des mécanismes de neuroplasticité. Troisième groupe de travail sur le traitement, l'approche thérapeutique, notamment au travers des techniques de neurostimulation, mais aussi, j'ai cité le synchrotron tout à l'heure, avec des projets de recherche sur l'utilisation de micro-faisceaux à très haute énergie qui pourraient être des techniques thérapeutiques utiles. Et enfin, le quatrième volet de fonctionnement de cette fédération, c'est la dissémination avec mise en place d'un master d'information pour le grand public et la mise en place d'un centre de ressources. Alors, je passe sur la gouvernance qui est assez classique et reste donc maintenant la question du financement de ces structures. Et il y a eu cette année le premier lancement d'appel d'offres réservé aux structures DHU ou FHU par le commissariat général à l'investissement au travers d'appels à projets qui s'appellent Recherche hospitalo-universitaire. Donc c'est des appels à projets qui sont financés dans le cadre des investissements d'avenir avec 200 millions d'euros qui sont destinés à ces structures. Le premier appel d'offres donc, qui est sorti en avril 2015 a permis de retenir 4 projets pour un financement de 32 millions d'euros. Donc il en reste encore pas mal. Un deuxième appel à projets qui est attendu pour... qui est sorti pardon, cet automne avec une réponse attendue pour fin janvier. La particularité de ces projets RHU, c'est d'avoir une dimension de valorisation extrêmement forte, beaucoup plus forte que le cahier des charges des DHU et FHU le laissait prévoir, puisqu'il est explicitement demandé qu'il y ait un potentiel de valorisation industrielle à chacun de ces projets. Ce qui montre l'ambition aussi de la chose. Donc je vous ai fait figurer ici les 4 projets qui ont été retenus dans ce premier appel à projet RHU. Les 2 premiers en particulier sont assez connus et médiatisés, notamment le premier, c'était les 2 premiers ex aequo sur le BioArt Lung, qui est la mise au point d'un poumon artificiel qui serait porté en ceinture par les patients. Donc on voit tout de suite où se situe la valorisation industrielle. Donc voilà en quelques mots la description de cette structure FHU. Alors je n'ai pas commenté pourquoi c'était un F et pas un D, puisque j'ai parlé beaucoup de DHU et puis de temps en temps de FHU. Alors c'est une petite particularité, je n'ai pas voulu le mettre sur les diapositives parce que c'est un tout petit peu polémique, mais c'est ce qui a retardé la labellisation de notre projet. Mais c'est lié au fait que... pour dire les choses de façon un petit peu caricaturale, l'appellation D semble devoir être réservée aux équipes parisiennes et que les équipes de province devront se contenter de s'appeler Fédération hospitalo-universitaire et non pas département. Ça a été un long débat assez polémique avec l'INSERM et Avissant qui a pris quelques mois. Voilà, merci de votre attention.